pour me rattraper de mon absence le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et parce que c'est toute l'année l'occasion de mettre en avant les initiatives des femmes pour les femmes, je reçois aujourd'hui deux des cinq rédactrices du journal en ligne Les Hystériques. Marion, Alice, Léa, Erel et Morgane sont étudiantes en histoire et l'année dernière a germé dans leur tête l'envie de monter un journal qu'elles décrivent comme un projet imaginé par quatre super nanas, rejointes dans la foulée par Léa à l'origine de tous les dessins et illustrations. Des nanas qui en avaient marre de ne pas être entendues et écoutées, mais qui ont surtout beaucoup de choses à dire et à écrire. Ce journal a pour objectif de créer un espace d'échange et d'écoute bienveillant sur la question des femmes, des masculinités et des genres. Pour en parler, je reçois avec plaisir aujourd'hui Erel et Morgane. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Racontez-nous un petit peu ce journal, d'où vient l'idée, cette idée partagée dans votre cercle d'amis de meufs, de monter ce journal. Racontez-nous un peu son histoire à l'origine.
Ça a commencé sur Messenger, où on s'envoyait des messages sur un groupe, suite à la nomination de Polanski au César. On était toutes les quatre au début très énervées et on avait trop de choses à dire sur la question. Donc ça a germé l'idée dans nos têtes de se dire « bon, on va écrire tout ça, tout ce qu'on a à dire ». Et donc, bah, pourquoi pas faire un journal en ligne.
Et puis je pense qu'on avait toutes, chacune déjà le projet en fait, d'écrire et cette envie. Et sauf qu'on n'osait pas se lancer seule ou chacune de notre côté. Et en fait, d'en parler et de voir que chacune avait eu cette idée aussi, bah, ça nous a encouragées. Et ça nous a d'autant plus encouragées que Polanski a eu le César. Et du coup, qu'on s'est encore plus sentis flouées. De cette colère est née un peu notre motivation. Et donc voilà, le projet est né... après plus d'un an de messages et d'organisation.
Finalement, l'envie, elle était quand même ancienne, mais il y a eu un élément catalyseur qui vous a vraiment dit « ça y est, c'est bon, on en a marre, maintenant c'est à nous ».
Exactement.
Alors ce journal, concrètement, avant de rentrer dans le détail, à qui s'adresse-t-il ? Y a-t-il un public précis que vous cherchez à viser, ou au contraire d'être le plus largement lu et vu ?
Forcément, du fait qu'on n'ait pas forcément une formation journalistique, on cherche à s'adresser à tout le monde sans aucune prétention. Après, on a aussi un souci pédagogique, en tout cas de transmission, parce qu'on apprend aussi en faisant des recherches, en construisant nos articles. On apprend en échangeant avec nos collaboratrices, dont je pense qu'on reparlera plus tard. Voilà, et du coup, il y a aussi un aspect d'échange. Et c'est vrai qu'on vise plutôt quand même un public jeune, ou en tout cas en construction, tout comme nous. Parce qu'on n'a pas la prétention de tout savoir et de voilà, c'est le but, c'est aussi d'échanger et d'apprendre et de se remettre en question et d'essayer d'avancer pour mettre à bas le patriarcat.
Comme le disait Erel, on n'a pas un public précis en vue. On veut vraiment que ça parle à tout le monde. Et même quand on regarde nos statistiques, on veut que ça touche des femmes, mais on veut aussi que, par exemple, ça touche des hommes, vraiment tout le monde, de n'importe quelle tranche d'âge. Donc, par exemple, bon, là, on est à peu près, dans les statistiques, à 70% de femmes qui lisent, mais il y a quand même 30% d'hommes. Et aussi, on fait ça pour aussi déconstruire les mentalités, pour instruire, et aussi nous-mêmes s'instruire. Donc, bon, on veut toucher vraiment tout le monde et aussi avoir un retour de ces personnes-là, pour qu'on puisse nous aussi apprendre et par ceux aussi qui nous lisent, quoi, celles et ceux qui nous lisent.
Et au-delà des femmes et des hommes, toute personne non-binaire, les personnes transidentitaires aussi, si on peut avoir des retours ou si elles ont envie de lire ou de participer, évidemment, on est ouvert à tout et à toutes.
Tu en parlais juste avant, Erel, tu disais qu'il y a quand même un objectif un peu pédagogique, quelque chose à transmettre. Justement, derrière la publication de ce journal indépendant et féministe mené par des jeunes femmes, étudiantes en plus, que cherchez-vous, vous, à transmettre, à témoigner ? Est-ce que, s'il y en a un, quel est le message que vous souhaitez porter ou du moins diffuser ?
Je pense que déjà, on a tous un vécu. Alors, il n'est pas forcément le même et il n'y a pas à hiérarchiser les vécus ou les traumatismes. Donc, on a, je pense... toute personne femme ou assimilée femme a toujours a pu être, par exemple, victime de harcèlement dans la rue, de sexisme, de discrimination. Donc, en ce sens, on est toutes légitimes à faire passer nos expériences et à témoigner de ça, parce que pour certains, c'est encore... c'est pas une réalité, en fait. Et donc, ces gens se cachent derrière des fausses excuses et du coup, déconstruire tout ça pour... mettre les gens face à cette réalité, à ces réalités, c'est important. Donc je pense que ça, c'est le premier point. Et oui, et de dire que voilà, il n'y a pas... tous les vécus, toutes les expériences sont importantes, tous les ressentis sont importants, et voilà, de sortir de cette hiérarchisation aussi des discriminations, c'est aussi un point important pour nous.
Oui, donc finalement, si on peut résumer, l'idée générale, instruire et déconstruire.
Exactement.
Alors, si on se penche un petit peu plus sur la forme de ce journal, il est composé de rubriques un peu spécialisées. On retrouve des faits d'actu, comme un retour sur les manifs du 8 mars dans plusieurs villes de France, le portrait de femmes parfois méconnues et qui ont pourtant porté leur pierre à l'édifice dans une rubrique qui s'intitule « Un jour, une femme » ou encore une rubrique qui s'appelle « On en parle », dans laquelle toutes sortes de sujets peuvent être abordés dans un objectif, briser les tabous. Comment vous avez un petit peu défini ces rubriques? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus pertinent pour choisir ces thématiques?
Déjà, on a beaucoup réfléchi jusqu'au dernier moment avant de lancer le site. On réfléchissait justement aux rubriques qu'on allait mettre, etc. Il nous a paru évident qu'il fallait mettre un grand nombre de rubriques pour essayer de toucher un maximum de sujets. Et surtout, on a essayé de trouver des rubriques qui brisent certains tabous. Comme par exemple, dans la catégorie « Parole de salope », on veut vraiment... Pas que ce soit forcément très trash, mais vraiment que ça a un impact quand les gens ils nous lisent. Et ça a été vraiment de la recherche, beaucoup, pour trouver toutes les rubriques qui pouvaient parler au maximum de toutes les luttes qu'englobe le féminisme. Et donc ça a été vraiment de la recherche.
Et puis en plus, comme on est plusieurs, on est toutes intéressées par des choses différentes. Donc c'est vrai que certaines voulaient plus parler sexualité ou santé, d'autres plus axées sur l'histoire et du coup le fait que certaines femmes soient passées complètement à la trappe dans les livres historiques, etc. Donc en fait, ça permettait à la fois de faire plusieurs rubriques aussi de permettre à différentes personnes d'écrire et de fournir le journal en articles.
Oui, on vient de le dire, les articles publiés par les hystériques sont très variés. Il peut s'agir, donc je le disais, de sujets d'actu, comme la récente légalisation de l'IVG en Argentine ou les manifs du 8 mars, mais aussi des sujets de société, comme la grossophobie, la grossophilie, le harcèlement de rue, les pratiques sexistes, mais aussi parfois des productions plus littéraires ou intellectuelles, entre guillemets, comme un éclairage sur un écrit de Toni Morrison ou un commentaire libre sur Frantz Fanon ou le portrait de la première femme gynéco, quelque chose qui remonte à l'Antiquité. D'où vous viennent toutes ces belles idées très variées finalement? Est-ce que vous puisez dans vos influences, dans votre parcours personnel, je pense notamment au parcours universitaire, pour trouver des idées et écrire tous ces articles?
Moi, je pense que clairement, un jour, une femme, on ne peut pas nier que ça vient de notre parcours historique. Parce que oui, effectivement, on a été amené à en croiser des femmes et à se dire, mais pourquoi au final, elles ne sont pas du tout représentées? Pourquoi il n'y a pas de statut d'elles, de rues qui portent leur nom? Parce qu'en fait, l'histoire est jonchée et sur toutes les périodes, vraiment, de femmes qui ont fait ce qu'elles voulaient, qui même encore aujourd'hui, j'entends beaucoup de propos sur l'époque médiévale, par exemple, comme quoi les femmes étaient reléguées juste au rang d'épouses et de mères, et c'est complètement faux. On a réécrit l'histoire pour nous faire croire ça, mais c'est pas vrai, donc c'est important de revenir là-dessus. Après, l'actualité fournit un bon terreau pour trouver de l'inspiration, malheureusement. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a forcément nos formations. Il y a aussi les discussions qu'on a avec d'autres personnes. Les réseaux sociaux aussi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je retrouve sur des comptes ou qui partagent. Et je me renseigne beaucoup là-dessus et qui partagent des ressources et qui sont très, très bien faits. Et du coup, tout ça permet de... Après, selon les intérêts, l'actualité de chacun, on en discute ensemble avec les collaboratrices et on voit qui veut, qui peut, qui a le temps, si on peut se mettre à plusieurs ou toute seule et voilà. Et on fait l'article.
Oui, comme tu l'as dit, on est en histoire où on a fait un parcours d'histoire. Donc c'est sûr que ça influe beaucoup sur ce qu'on va écrire, sur les sujets qu'on choisit. Comme notamment Un jour une femme. Aussi, on tend vers un truc un peu plus journalistique aussi, même si on n'est pas journaliste. Bientôt, ça se trouve. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment, en fait, c'est un petit mixte. On essaye de faire de l'histoire avec un peu de journalisme. Enfin, on essaye parce qu'on n'est pas des pros. Mais je trouve que ça donne vraiment aussi un petit côté que certains médias n'ont pas. Et on essaye vraiment d'être un peu original à travers ça.
Après, on a aussi la chance d'avoir un panel très large de collaboratrices parce qu'on a voulu... aussi avoir le plus de variété possible dans les collaboratrices. Et du coup, ça permet aussi d'apporter des influences extérieures à l'histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait histoire pour être dans nos collaboratrices, heureusement. Et du coup, voilà, ça permet de mélanger des méthodologies, des intérêts. Enfin, voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être interdisciplinaire.
Voilà.
Finalement, si on peut résumer un petit peu la chose, autant dans le public visé que dans le choix des articles, des thématiques, des rubriques, l'idée c'est d'être inclusif et inclusive.
Ouais. On se donne pas de limite, c'est sûr.
On parlait justement des collaboratrices. Pour écrire tous ces articles, vous n'êtes pas seule. Vous êtes aidée de collaboratrices qui écrivent plus ou moins régulièrement pour vous, pour les hystériques. Comment ça fonctionne, en quelques mots, cette organisation, ce travail de groupe entre vous, les cinq, on va dire, et les collaboratrices?
En soi, on a les collaboratrices, mais aussi on a lettre ouverte. Tout le monde peut nous écrire. Mais le travail avec les collaboratrices, c'est des rencontres, c'est des discussions, et on se dit... Ah bah t'as envie de parler, t'as envie d'écrire. Après il y a une dynamique de groupe qui se crée parce que bah, on a discuté toutes ensemble, que ça a donné à certaines l'envie d'écrire, de se révolter aussi avec nous. Donc on est sous un petit groupe quand même qui maintenant commence à grandir au fur et à mesure que ça prend un peu de l'ampleur le projet.
Une fois qu'on a discuté du sujet avec la collaboratrice et qu'elle, elle a fait ses recherches et produit son article, on le relit quand même, alors pas dans un but de censurer ou quoi que ce soit, mais juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe et voilà. Et une fois que c'est fait, bah on publie tout simplement, on l'édite et on le publie. Mmh. Et on fait la promo. Donc là, c'est souvent Léa qui fait des super dessins pour promouvoir les articles. Ce qui nous permet en plus d'avoir une ligne éditoriale assez logique, de créer des dessins, de nous créer un univers autour du journal. Et donc, on fait la promo sur les réseaux.
Plusieurs de vos articles, notamment, je pense à celui sur la légalisation de l'IVG en Argentine, ou un article au titre très percutant, « Les kilos menacent-ils la libido ?», qui évoque la grossophobie et la grossophilie. Ces articles, ils s'appuient sur des entretiens réalisés avec des femmes qui apportent leur vision du sujet, ou un aperçu de leur expérience, un témoignage. Qu'est-ce que ça apporte, ces entretiens, comme poids dans les articles? Qu'est-ce que ça représente de pouvoir appuyer le propos de vos articles sur des témoignages, des expériences vécues?
Déjà, je pense qu'on n'a pas envie de, peut-être pas voler l'histoire, mais en tout cas, on n'a pas envie de s'approprier l'histoire de quelqu'un d'autre sur des sujets qu'on n'a pas forcément vécu. Par exemple, écrire un article sur le racisme, d'accord, mais en tant que personne blanche, moi, je ne vois pas trop ce que je peux y apporter. Donc forcément, il faut un témoignage, il faut que je me réfère à des personnes qui le vivent tous les jours. Donc c'est pareil pour la grossophobie, l'article sur la grossophobie et la grossophilie. C'était important pour nous de nous référer à des gens qui sont directement confrontés tous les jours à ces violences. Et donc voilà, on ne veut pas s'approprier des histoires qui ne sont pas les nôtres. Nous, notre but, c'est de promouvoir aussi la parole de ces personnes qui ne sont pas forcément visibilisées comme elles le devraient dans les médias.
Et oui, bah, comme tu le disais, on ne veut pas s'approprier l'histoire des gens et en plus, surtout quand ça ne nous concerne pas. Et c'est aussi parfois, il y a des sujets très sensibles, donc vaut mieux que ce soit des personnes concernées qui n'ont peut-être pas envie d'écrire ou qui ne se sentent pas, donc bah, on peut les interviewer et écrire l'article, mais avec leurs propos, et comme sur la légalisation de l'IVG, bah, ça donnait un peu, comme la personne était là-bas, bah, ça donne aussi un univers où tu es plus plongé dans le sujet parce que bah, la personne l'a vécu, donc bah, c'est plus facile à raconter que juste exprimer juste des faits. Mm. Donc là, bah, c'est quelqu'un qui l'a vécu, qui peut raconter son histoire. C'est mieux que juste exprimer des faits et que ce soit bah, plat au final.
Ce journal, il est donc disponible en ligne. Vous avez choisi de le rendre visible et accessible sur un site internet. Vous partagez également les articles sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je me doute de la réponse, mais pourquoi avoir choisi prioritairement ces supports d'en faire une publication entièrement numérique?
Bah déjà, parce que c'est très compliqué aujourd'hui, bah, la presse papier, c'est pas facile de pouvoir imprimer, diffuser, comment on le diffuse. Ça nous est tout de suite venu l'idée de le faire en ligne, plutôt que bah, papier, où on aurait pu faire des podcasts, etc. Mais justement, faire un journal en ligne, après on peut ajouter plein d'autres supports. Après on a monté ça et puis on s'est dit qu'on allait prendre bah, Twitter, Facebook, Instagram pour diffuser ce journal, parce que bah, c'est beaucoup plus facile de diffuser un lien qu'un morceau de papier, etc. C'est aussi plus simple pour les gens de lire. Comme ça,
c'est gratuit.
Voilà, c'est gratuit. Ils cliquent sur un lien, ils peuvent voir l'article et c'est facile d'accès en fait.
Oui. Nous, je pense qu'on s'est construit aussi beaucoup avec Instagram, les réseaux, etc. Donc ça nous semblait juste logique d'y avoir recours comme nous, on y avait recours également.
Bon, ce sera ma dernière question, on terminera là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir une idée des prochains articles à apparaître, des prochaines thématiques abordées par les hystériques ou même des prochains projets plus généralement?
On a toujours, par exemple, des idées de « Un jour, une femme », donc ça sort souvent, genre, toutes les semaines à peu près. Mais sinon, là, il y a plein d'autres sujets qui arrivent, comme par exemple avec les 150 ans de la Commune, où il y a quelques articles pour d'autres, pour d'autres catégories qu'on n'a pas encore faites, notamment Parole de salope. Après, c'est les collaboratrices. Ça se trouve, elles vont arriver. On ne connaît pas encore tout ce qu'on va faire, mais on a quelques projets qui arrivent bientôt, bientôt.
Notamment sur les femmes dans le monde du travail, dans des grosses chaînes qu'on ne nommera pas pour l'instant, mais voilà, leur position dans, et les discriminations qu'elles peuvent rencontrer.
Eh bien, merci beaucoup pour votre venue dans l'inattendu, Morgane et RL. Je vous laisse rappeler quand même à nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient vous lire ou participer à la rédaction des Hystériques. Où est-ce qu'on vous trouve sur Internet et sur les réseaux ?
Leshystériques.fr pour le site, et sinon c'est Journal Les Hystériques sur Instagram, Les Hystériques sur Facebook, et Twitter c'est @les-hystériques.
Eh bien, l'info est passée, en espérant que ça lance des vocations, que ça donne envie à certains et certaines de vous écrire. Merci encore pour votre venue et surtout bonne continuation dans la poursuite de cette super initiative étudiante et féministe.
Merci.